Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Fonction, votre podcast dédié à l'éducation fonctionnelle qui vous est offert par Mayuro et MOS. Depuis plus de 10 ans, Mayuro et MOS collaborent dans l'objectif d'assurer aux praticiens et aux patients des outils et traitements adaptés aux thérapies myofonctionnelles. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de mettre à profit leur lien solide pour vous offrir une série de podcasts dédiés à l'éducation fonctionnelle et visant à vous fournir un maximum d'informations complémentaires à votre travail. Place au deuxième épisode, le parcours d'un enfant, avec Laura Dauer, logopède, Anne-Sophie Muller, docteur en médecine, et Laurence Denis, logopède, toutes les trois formatrices chez Mayuro. Bonne écoute.
Parlons fonction.
Alors Laura et Anne-Sophie, vous êtes toutes les deux formatrices pour Mayuro et vous faites la formation à propos des jeunes patients, donc des 0-3 ans, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste la formation?
Oui, bien sûr. En fait, nos collègues se sont rendus compte qu'il y avait des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre lorsqu'ils dispensaient la formation 3 ans et plus, et que la tendance allait beaucoup à la prévention chez l'enfant lors de sa croissance. Et Sébastien, Laurence et Brigitte nous ont proposé d'intégrer leur équipe pour justement développer cet aspect, l'enfant qui croit et qui évolue avec un potentiel très important dans cette tranche d'âge.
Tu connaissais Mayuro avant? Tu avais fait éventuellement les formations avant?
Oui, j'avais fait la formation avant. Et alors, je connais Sébastien et Laurence depuis longtemps parce qu'ils étaient formateurs quand j'ai fait la thérapie manuelle. Et alors, Brigitte a été mon professeur.
D'accord.
Quand j'étais en école de logopédie.
Donc, Brigitte Pirard, qu'on entendra oui. Évidemment sur d'autres épisodes plus tard. Anne-Sophie, toi, tu n'es pas logopède.
Oui, c'est ça, je ne suis pas logopède.
Et tu es médecin généraliste.
Oui, tout à fait, je suis médecin généraliste. J'ai en fait complètement réorienté ma pratique, moi, il y a peu de temps, suite à diverses formations, dont Mayuro pour le 3+, et toute une série de formations autour du tout petit enfant, de la croissance, du sommeil, des troubles alimentaires pédiatriques. Et donc, j'ai toujours une partie de ma pratique qui est ciblée sur des suivis classiques pour le tout petit. Mm-hmm. Je vois aussi des enfants malades, mais j'ai vraiment à cœur de pouvoir faire de la prévention, de l'information, d'orienter rapidement durant cette période de la vie où effectivement l'action peut être vraiment optimisée, enfin, au niveau des prises en charge, etc. Et donc j'ai développé en parallèle une consultation spécifique qui s'appelle Mieux Grandir et qui prend en charge, pour être large, l'alimentation de la naissance jusqu'à la fin de l'enfance, mais j'ai parfois aussi des ados qui consultent, et le sommeil aussi.
D'accord. Donc, voilà. D'accord. Justement, là, on se retrouve dans la pluridisciplinarité dont on parlait à l'épisode premier, Laurence. Ça va être très intéressant d'avoir un peu votre point de vue, parce que justement, donc, on va parler du parcours de l'enfant. Et en fait, on va aborder d'abord le premier sujet, c'est comment est-ce qu'on décèle chez un enfant en bas âge un problème de dysfonction? Comment est-ce qu'on y arrive et qui s'en charge en fait de la détection?
C'est un peu toute la complexité, tout d'abord, parce que qui voit quoi, qui observe quoi. On s'est souvent posé la question, et c'est notamment pour ça qu'il y a une petite année maintenant, on a commencé à consulter en commun, en duo, parce que la logopède notamment peut avoir un œil très intéressant pour comprendre ce qui ne fonctionne pas de façon adéquate chez un enfant, mais ne peut pas se désolidariser d'un médecin aguerri et attentif. Donc, il est vrai que moi, je n'observe pas du tout la même chose qu'Anne-Sophie. Et toi, tu fais des liens, ou en tout cas, tu différencies tout ce qui pourrait poser souci.
Voilà. Je pense qu'en fait, le point de départ, c'est vraiment de se dire que même si la dysfonction, elle est présente, on va être face à un enfant qui ventile par la bouche, avec un sommeil qui est altéré, une alimentation qui n'est peut-être pas optimale. Je pense que la première chose à faire face à ce genre d'enfant, qu'on rencontre malheureusement très fréquemment, c'est de prendre en fait du recul et de le voir dans sa globalité. Mm-hmm. Et je pense qu'en parallèle, on a aussi une sensibilisation, et c'est super que la démarche d'amener des podcasts comme ça étapes par rapport à la sensibilisation des logos, mais je pense que c'est des podcasts qui pourraient intéresser aussi tous mes confrères, pédiatres, ORL, etc.
Ouais, bien sûr.
Et de se dire que ben, il faut pouvoir avoir une vision d'ensemble pour pouvoir être non seulement efficace en termes de temps, d'argent pour le parent, pour le patient, etc. Et je pense qu'on ne peut pas désolidariser complètement les dysfonctions orofaciales de la sphère ORL pure, d'un point de vue anatomique, d'un point de vue allergique, la sphère gastro-digestive, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir cette vision d'ensemble pour permettre à nos, enfin, voilà, aux logopèdes d'optimiser leur prise en charge et leur réhabilitation au niveau myofonctionnel.
Donc, c'est quel praticien, en fait, qui va réussir à déceler ? En fait, ça dépend des parents. Chez qui les parents vont se diriger ?
Oui, tout à fait. Et puis, ça dépend aussi quelle vision va avoir chaque praticien.
Oui.
Je pense que c'est là aussi la démarche qu'on est en train d'adopter. C'est que, selon nous, chaque praticien qui rencontre un jeune enfant doit être à même de pouvoir détecter des signaux d'alerte, oui, des signes de dysfonction, et de pouvoir savoir qui fait quoi, qui peut amener quoi à cet enfant, de manière à le faire évoluer favorablement dès son plus jeune âge. Donc ça peut être le dentiste lors des premières visites, oui, le pédiatre, le médecin ORL, le médecin généraliste, et c'est quand tous ces professionnels sauront exactement ce que l'on peut apporter, qui peut apporter quoi, qu'on arrivera vraiment dans une démarche qui est beaucoup plus efficace.
Bien sûr. Anne-Sophie, tes confrères médecins, tu en vois aussi qui ont fait cette démarche-là, comme toi tu l'as faite, c'est-à-dire dans l'ouverture et dans le travail collaboratif ?
Je pense que de plus en plus, on va faire ça. Je pense que la nouvelle génération de médecins, en tout cas, est dans la collaboration, que ce soit en intra-hospitalier, même en extra-hospitalier. Il y a vraiment des réseaux de soins dédiés à toute une série de problématiques qu'on voit se développer. Et je pense qu'on travaille, qu'on soit médecin ou d'autres paramédicaux, main dans la main, dans l'intérêt du patient. Et donc, oui, je pense que de plus en plus, on est sensibilisé au fait de devoir travailler en commun, qu'on a tous son champ d'action par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc les dysfonctions orofaciales, et que ça peut même tout simplement, dans la liste des personnes qui peuvent aussi alerter le parent, mais ça pourrait, on peut aussi imaginer dans les crèches, d'avoir dès le plus jeune âge, vraiment, même en dehors finalement du médical et du paramédical, des personnes qui pourraient mettre en avant des dysfonctions.
Donc il faudrait une vraie sensibilisation de tous les praticiens. Mais est-ce qu'on pourrait aussi envisager une sensibilisation des parents ?
Bien sûr. Je pense qu'on va quand même vers ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, les réseaux au niveau communication, etc., nous permettent quand même, nous aussi, en tant que professionnels et en tant que parents, d'avoir plus facilement accès à l'information. Et ça arrive effectivement de temps en temps, voire maintenant régulièrement en consultation, d'avoir des parents qui viennent parce que mon enfant respire par la bouche.
Oui, c'est ça.
J'ai appris que c'était pas normal, mon enfant ronfle.
Oui, parce qu'en fait, c'est facilement détectable d'une certaine manière. Le fait que son enfant respire par la bouche, on peut vite le voir.
Tout à fait. Comme les ronflements. Oui. On a tendance à banaliser le ronflement. Je pense que ce soit dans les publicités ou dans les films, on voit des enfants qui ronflent, des adultes. Je pense que c'est quelque chose qui est banalisé, alors que vraiment, c'est des choses qui doivent être prises en charge et le plus tôt possible. Donc, oui.
Vous faites la formation 0-3 ans. Dans votre patientèle, vous avez beaucoup de patients entre 0 et 3 ans ?
Oui, tout à fait. Déjà, on reçoit quand même pas mal de petits patients toutes les deux ensemble. Et de toute façon, c'est monnaie courante pour l'une comme pour l'autre de rencontrer les patients de cette tranche d'âge.
On parlait dans le premier épisode que les éducateurs fonctionnels étaient plutôt à partir du moment où on essaie de faire le transfert de la tétine. Quand ils ont un an, on ne va pas placer un éducateur fonctionnel. Du coup, quelle est l'approche justement dans le sens de l'éducation fonctionnelle, mais qu'on peut avoir avec ces petits patients ?
Je pense que là, il y a tout un travail effectivement d'explication à donner aux parents. On parle de guidance, de prévention. Et c'est sûr que que ce soit Laura ou que ce soit moi, on a en consultation commune ou chacune de notre côté beaucoup de choses à apporter par rapport à ça. Et donc je pense que sensibiliser l'effet que peut avoir une succion prolongée sans dire que c'est quelque chose qui ne doit s'arrêter à un certain moment, sans pointer du doigt en disant que c'est quelque chose qui est mauvais. Non, ça fait partie du développement de l'enfant, mais il faut pouvoir finalement accompagner cet enfant par rapport à sa succion, sur une tétine, sur le pouce, etc. Et puis, au moment où on souhaite que l'enfant est prêt aussi, il y a des choses effectivement qui peuvent être mises en place avec l'aide de logopèdes pour sevrer tout ça en douceur.
Oui. Et puis, on peut aussi envisager évidemment tout ce qui est conseil prophylactique, l'hygiène nasale, l'hygiène bucco-dentaire, pour des fois venir aider même un médecin qui est face à un enfant qu'il faut sans cesse soigner pour des rhinites ou des affections chroniques. Et là, on a vraiment notre place en soutien via de la guidance parentale, des bons conseils, des petits trucs et astuces pour favoriser la ventilation nasale. Et il est vrai que des fois, de manière un petit peu précoce, même chez un enfant âgé de 2 ans, 2 ans et demi, selon son évolution, selon son caractère, on peut parfois proposer un intercepteur labial en soutien. On n'a pas dit qu'on le mettait en place du tout au tout et on n'est pas du tout dans une démarche agressive, mais en douceur, on peut proposer d'y passer pour les siestes et de laisser la sucette ou voilà, de faire en sorte que tout se passe de façon harmonieuse.
Je vois.
Et je pense qu'en parallèle aussi, par rapport à tout ce qui est diversification alimentaire, il y a un grand rôle à jouer par rapport à l'explication de l'importance de l'évolution des textures, dans ce que les parents vont proposer à leur enfant, l'importance de manger des morceaux durs quand ils en sont capables, bien sûr. Je pense que c'est toutes des choses qui doivent être expliquées parce que ce sont clairement des grandes étapes qui favorisent la croissance orofaciale et ce n'est pas à négliger. Et je pense qu'en parallèle de cette fameuse ventilation nasale, je pense que tout ce quoi va être exposé l'enfant au niveau alimentation, c'est aussi super important finalement.
Tu utilisais le mot étape. Selon vous, quel serait l'idéal au niveau des étapes à franchir par rapport aux praticiens qu'il faut aller voir? Ça peut peut-être partir du pédiatre, c'est quand même peut-être le premier médecin qu'on va voir. C'est peut-être le pédiatre qui peut déceler ou en tout cas dire « Ah tiens, je vois peut-être un petit problème, aller vers une logopède ». C'est ça l'étape idéale?
Alors c'est vrai que ça va être différent de, voilà, des 3 ans et plus. Hein, chez les tout petits, on va plus retrouver justement les médecins spécialistes dans la petite enfance, les pédiatres qui vont pouvoir nous aider, certains médecins traitants qui vont connaître en fait, l'enfant dès sa naissance finalement, connaître ses habitudes de sommeil, ses habitudes de succion, l'évolution de l'alimentation. Donc ça va être plus vers ce type de spécialiste qu'on va se diriger. Et le relais ORL arrivera peut-être un peu plus tard si l'enfant développe des problèmes respiratoires.
Donc a priori, vous voyez les patients avant l'ORL?
C'est parfois un peu concomitant parce qu'il y a beaucoup d'hésitation des fois de la part des personnes qui nous envoient le patient. Ouais. Des fois, c'est sur une démarche spontanée des parents. Et donc, je pense que ça dépend un peu de la fréquence à laquelle le petit patient rencontre le professionnel de la santé.
C'est ça, bien sûr.
Voilà, s'il est tout le temps malade, en première attention, il va peut-être voir son médecin traitant très souvent. Et je pense que c'est en étant face à l'enfant très régulièrement qu'on se dit, ben, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche ou est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer sa qualité de vie. Et donc, c'est vrai qu'ils peuvent arriver de divers horizons dans nos cabinets avec ou sans avis ORL que l'on doit en effet parfois nous-mêmes préconiser.
Quand ils arrivent chez vous, vous avez une possibilité de contacter le praticien qui vous les a envoyés ou en règle générale, vous avez le patient qui arrive chez vous et vous le recevez comme un nouveau patient sans avoir de vision de ce qui s'est passé avant qu'il arrive chez vous?
Je pense que pour prendre en charge, finalement, qu'on soit logo ou un autre intervenant qui arrive à un moment dans le parcours de l'enfant, on doit tenir compte de ce qu'il y a eu avant, de son histoire. Je pense que c'est indispensable et donc on prépare un minimum les consultations. Voilà, je pense qu'en tant que ce soit vous en tant que logo ou moi en tant que médecin, on a accès au dossier de l'enfant, on sait aller chercher, on peut aussi décrocher son téléphone, téléphoner, demander, bah, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce qu'il arrive chez moi aujourd'hui, etc. Et je pense qu'il faut tenir compte de tout ça, c'est une globalité de nouveau.
Bien sûr.
Et c'est peut-être justement le moyen également de pouvoir se contacter et de faire connaissance entre professionnels de la santé autour de cet enfant, de créer des liens et de pouvoir collaborer à nouveau. C'est vrai que c'est une démarche que nous, on a assez spontanément maintenant, régulièrement, ou en tout cas quand un enfant arrive d'un confrère qu'on ne connaît pas, on a tendance vraiment à se mettre en contact. Oui.
Et les confrères qui vous ont envoyé un patient, mais qui ne sont pas spécialement encore totalement ouverts à l'éducation fonctionnelle, comment est-ce qu'ils vous reçoivent ou comment est-ce que vous arrivez à communiquer avec eux pour justement expliquer un petit peu ces étapes?
Je pense que la force des logopèdes, en tout cas pour parler pour nous, c'est que c'est parfois considéré comme une charge, mais pour moi c'est une force. C'est qu'on doit quand même rédiger beaucoup de rapports et de comptes rendus.
Oui.
On y est tenu, notamment pour des démarches administratives et de remboursement. Mais ça nous permet de devoir poser nos cas ou nos observations sur papier, de rédiger un projet thérapeutique, des conclusions. Et donc, c'est le meilleur moyen aussi d'aller conscientiser les autres professionnels parce que vu qu'ils sont prescripteurs, on doit leur fournir. Et donc, c'est souvent une bonne porte d'entrée pour discuter et dire, ben voilà, je vous ai, si peut-être on n'a pas de retour, ben, je vous ai envoyé mon compte rendu, qu'est-ce que vous en pensez, vous l'avez lu.
Et on est aussi prescripteur dépendant, donc c'est vrai qu'on est amené à leur demander une prescription pour pouvoir effectuer les séances, ou en tout cas que le patient en soit remboursé par la mutuelle. Et donc là, moi, j'ai, en tout cas en ce qui me concerne, rédigé un courrier qui explique pourquoi je demande cette prescription, et mon bilan est détaillé. Donc c'est vrai que ça les informe au fur et à mesure, et notamment les dentistes, qui peuvent prescrire cette rééducation au remis au fonctionnel, maintenant sont de plus en plus sensibilisés.
Là, on a parlé surtout de comment est-ce que les patients viennent chez vous. La suite, donc vous, justement, qui êtes très ouvert au travail collaboratif, quand vous avez un patient chez vous, on parlait donc de la ventilation, et donc souvent vous aiguillez vos patients vers un ORL, c'est ça, pour vérifier la perméabilité et la possibilité de respirer par le nez. Est-ce que vous faites également une démarche pour leur conseiller des dentistes qui sont plus ou moins ouverts à l'éducation fonctionnelle, ou ça vous laissez totalement, enfin vous laissez de toute façon libre, vous n'allez pas obliger quelqu'un à aller voir un dentiste ou un autre, mais est-ce que vous guidez quand même un petit peu, ou ça vous vous dites non, c'est pas notre domaine, nous ce qu'on va faire c'est on verra quel dentiste il voit et après on prendra éventuellement contact avec le dentiste.
Alors, c'est quand même quelque chose aussi du domaine de la prévention. Certains patients vont chez le dentiste d'office avec leur enfant dès 2 ans, 2 ans et demi. Ouais. D'autres parents pensent qu'il n'y a pas besoin avant 5, 6 ans, par exemple. Donc, moi, c'est quand même une question que je pose régulièrement, systématiquement même. Et je conseille 2 rendez-vous par an pour surveillance. On sait que les caries évoluent beaucoup plus vite chez le petit enfant, donc c'est quelque chose que je préconise. Maintenant, je ne donne pas spécialement un nom ou l'autre. Ils ont parfois déjà leur dentiste ou ils vont chez le dentiste des parents, sauf cas alors particuliers où il y a les pédodontistes qui sont vraiment habilités à soigner les enfants, les jeunes enfants ou enfants à problème.
Oui, ça c'est quand tu décèles déjà un problème
plus particulier.
Oui, c'est ça. Tout à fait. Est-ce que vous trouvez que dans votre démarche collaborative, est-ce que vous êtes confronté parfois à des soucis qui sont infranchissables, entre guillemets, des personnes qui sont réfractaires, des praticiens qui ne veulent pas entendre parler de votre démarche? Et donc, du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ceux qui nous écoutent et qui pourraient, eux, être confrontés à ce même type de problème, justement pour continuer à accompagner cet enfant que vous voyez très régulièrement, vous, hein, si j'ai bien compris?
Je pense qu'on peut avouer certaines fois qu'on a des limites thérapeutiques.
Oui.
On ne peut pas y arriver avec tous les patients. Il faut quand même qu'il y ait cet aspect de collaboration qui soit efficace entre nous et le patient et ses parents, les autres professionnels de la santé. Et donc, y a des fois où c'est vrai qu'on peut avouer que ça coince. Je pense que l'important, c'est de l'expliquer, de communiquer, pas simplement au patient et à ses parents, mais aussi aux professionnels de la santé qui gravitent tout autour, et que bien souvent et de plus en plus, on se retrouve alors dans la discussion où on peut essayer de trouver des solutions ensemble. Mais maintenant, c'est vrai que c'est énergivore.
On pense qu'on a ce devoir d'information. Alors après, une fois que le patient est informé, qu'il sait les conséquences que peut avoir une respiration, une ventilation buccale par exemple, après, c'est à lui de faire le choix, bien sûr, de nous suivre ou pas dans la démarche.
Oui, tout à fait. Anne-Sophie, donc toi, tu les suis en collaboration avec Laura de manière aussi régulière que les logopèdes?
Non, c'est variable, en fait.
D'accord.
Je vais être amenée à rencontrer parfois des tout petits patients par rapport à des problématiques d'allaitement. Si c'est des enfants plus grands par rapport à des difficultés de sommeil, je vais, effectivement, envoyer en ORL si je vois que d'un point de vue ORL, c'est problématique. Si d'un point de vue, j'ai vraiment des gros signes d'appel par rapport à la qualité du sommeil avec des apnées, du trosse, etc., je réfère en pneumo, pédia, polysomno, etc.
Oui,
parfois, je suis amenée à référer en neuro. C'est vraiment super variable. Le but, finalement, c'est d'être global, de pouvoir voir tout ce qui peut amener les dysfonctions, la qualité de vie. Qu'est-ce qui fait que finalement, cet enfant, il est là devant moi aujourd'hui? Vers qui est-ce que je peux le diriger? Qu'est-ce qui va vraiment pouvoir l'aider? Une fois finalement que la situation est stabilisée, effectivement, alors je vais prescrire ou préconiser de la logopédie pour revenir en soutien finalement à la situation.
Et c'est vrai que nous, on doit pouvoir fonctionner, on va pouvoir être efficace dans nos prises en soins si le patient est médicalement sain et qu'au niveau de sa sphère ORL, tout se déroule de manière optimale. Sinon, c'est sûr que nous, notre rééducation ne le sera pas.
Oui,
ne sera pas
optimale. C'est ça.
Et c'est ce qui est aussi des fois un peu subtil, et nous, on le rencontre beaucoup chez le tout jeune enfant, c'est que La sphère ORL, elle dépend du fonctionnement du reste du corps. Mmh. Le tout petit, c'est vraiment un être minuscule qui est une seule entité et dont tout est interdépendant. Et donc, la réponse, elle n'est pas toujours aussi facile à trouver.
J'imagine.
Et donc, je pense que c'est subtilité sur subtilité qui vont faire que quand on a vraiment un œil grand ouvert sur une famille qui vient nous consulter, c'est jamais le petit patient tout seul, on arrive des fois à trouver vraiment en collaboration le fond de la problématique. Et alors, c'est là qu'une logopède peut vraiment venir aider, conseiller et accompagner. Alors des fois, de façon très éphémère, hein, on intervient parfois très peu chez le jeune enfant en tant que logopède, ou alors à des étapes clés qui peuvent un peu poser souci. C'est vrai qu'on n'est pas, on se détourne un peu de cette prise en soin très chronique chez le tout petit qu'on peut retrouver un peu plus chez le plus grand, ou alors dans d'autres domaines de la logopédie que le nôtre. Et donc, on a beaucoup de choses à apporter, mais c'est vrai qu'on est très dépendant du fait que cet enfant soit équilibré au niveau médical.
Et justement, tu parlais de... Tu ne reçois pas un patient, mais tu reçois une famille. Chez les tout-petits, vous êtes très confronté aux parents. C'est un enjeu capital parce que vous présentez un petit peu votre philosophie, donc philosophie de la fonction. Est-ce qu'ils comprennent facilement ce que vous voulez mettre en place et l'accompagnement que vous voulez faire ?
On prend le temps, ouais. En fait, tout simplement. Moi, parfois, personnellement, je suis amenée à proposer aux parents de les revoir sans l'enfant parce que quand
D'accord.
ça peut être voilà, une problématique face à l'alimentation, face au sommeil, c'est parfois des choses qui sont peut-être pas optimales à expliquer devant l'enfant parce ouais. que quand on appuie sur tout ce qui dysfonctionne, c'est oui. difficile hein, pour
ouais,
le petit.
Bien sûr.
Et donc, je pense qu'en fait, on doit, dans un monde idéal, vraiment, on doit prendre le temps d'échanger, d'expliquer aux parents, d'expliquer à l'enfant aussi quand c'est le moment. Ben voilà, toi, tu viens pour ça chez moi me voir ou tu viens avec tes parents qui me disent que... Et ben moi, j'ai remarqué qu'il y avait ça finalement qui te posait problème et ensemble, on va essayer de trouver des solutions. Je vais t'amener voir des collègues, des confrères. Mmh. Et je pense que on n'est plus à l'époque où on imposait des choses aux patients qui venaient nous voir.
D'accord.
Je parle en tant que médecin, ouais. là. On n'est plus dans cette dynamique-là. On est, le patient, c'est un partenaire. On est partenaire dans la prise en charge de notre patient. Et donc, je pense que on lui doit d'expliquer pourquoi on met ce traitement-là en route, dans quel but, pourquoi on l'envoie en ORL, pourquoi on ne l'envoie pas en gastropédiatrie alors que le parent, il pensait que c'était là qu'il devait aller. Je pense qu'il faut prendre le temps. Alors, on peut mettre plein d'outils en place pour ça. En consulte, j'ai des fiches. On utilise des fiches aussi avec Laura pour tout simplement montrer ce qu'est une filière nasale, l'amylèse amygdale. Voilà, le patient tout venant, le parent-patient tout venant, il ne sait pas ça. Et je pense que pour pouvoir les rendre acteurs de la prise en charge de leur enfant et pour pouvoir rendre acteur l'enfant de la prise en charge lors de la logopédie, bah, il faut qu'on mette toutes ces choses-là en place. Sinon, je pense que souvent, on va courir à l'échec, oui.
Tu es au fait des éducateurs fonctionnels. Tu sais ce que c'est, tu connais ce que c'est. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'en proposer à tes patients ?
Non.
D'accord.
Je les connais, je sais finalement quand mes collègues logos vont les utiliser, mais je trouve que c'est pas mon rôle.
D'accord.
Je pense que j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Le fait de voilà d'aider à stabiliser, d'envoyer chez les bonnes personnes, de moi-même mettre en route des
bien
traitements,
sûr.
Je pense que c'est pas mon rôle. Voilà.
D'accord. Très bien. Et donc du coup, à ce moment-là, quand tu peux détecter qu'il y a peut-être un problème de tétine qui dure trop longtemps, bah, donc tu vas pas hésiter à proposer à l'enfant d'aller voir un logopède, et à ce moment-là, tu sais que
au feeling. Il y a des enfants où on sent qu'il ne leur faut pas grand-chose pour... voilà. Et si je peux embrayer pendant la consulte et proposer qu'ils me la laissent, je vais le faire.
Oh, bien sûr, bien entendu.
Mais si je sens que c'est plus compliqué, mais que soit il est temps, parce que parfois ça peut perdurer longtemps, hein, l'attitude.
Tout à fait.
Et qu'il y a voilà, un traitement orthodontique ou voilà, qu'il y a des choses qui doivent être mises en place, bah, de toute façon déjà accompagnées, etc. Et je pense que oui, alors c'est vraiment variable. Et
ouais.
Je vais, oui, référer alors... des collègues logo.
Et tu vas plutôt référer, dans ton cas, tu vas plutôt référer, si par exemple, s'il y a un problème de ventilation, que tu le sais, que tu l'as détecté toi, est-ce que tu vas plutôt embrayer d'abord sur un ORL et puis la logopédie, ou tu vas plutôt faire l'inverse, la logopède va, elle, envoyer l'enfant vers l'ORL ?
Non, je vais plutôt faire l'inverse.
D'accord.
Ce que je vais déjà faire, si j'ai des pistes,
ouais.
Est-ce que l'encombrement me semble lié à un phénomène d'allergie par rapport à toute l'anamnèse que j'aurais eue ? Est-ce que j'ai des signes d'allergie ? Est-ce que j'ai des signes de reflux gastro-œsophagien ? Ben, c'est des choses dont je discute avec les parents.
Ouais.
Et je dis, ben voilà, en attendant votre rendez-vous ORL, parce que j'ai quand même besoin de l'ORL, je remonte mon petit schéma en disant qu'il y a les végétations qui peuvent être problématiques, que les amygdales, elles sont peut-être plus volumineuses que ce qu'elles en ont l'air quand moi je regarde dans la bouche de l'enfant. Ben, en attendant le rendez-vous ORL, on va mettre un petit spray dans le nez pour désenflammer les muqueuses, on va mettre un traitement anti-allergique. Et je pense que les parents le comprennent parce que finalement, quand on met le doigt et qu'ils ont déjà rempli le questionnaire, ça leur a amené à observer leur enfant différemment. Donc, ils arrivent avec le questionnaire complété. Je pense que ça a déjà un peu titillé plein de choses au niveau de leur vision, de la vision qu'ils avaient de leur enfant, du quotidien, de la qualité de vie de leur enfant. Et je pense que du coup, moi, ça me permet déjà d'amener des solutions. Parce qu'il y a aussi une notion qui est importante, qui est le temps. À l'heure actuelle, les délais chez certains spécialistes, et ce n'est pas de leur faute, je pense que c'est l'organisation comme ça, sont parfois longs. Mm-hmm. Et donc, je pense que le fait déjà de pouvoir mettre quelque chose en place, on gagne du temps. Ouais. Et puis, quand l'ORL a donné son avis, etc., il y a un retour. Moi, je fais aussi toujours, j'ai pris le pli de faire aussi un courrier où je synthétise effectivement l'anamnèse, le questionnaire d'anamnèse et toute mon observation clinique, mes propositions thérapeutiques, de prise en charge, etc. Et ça permet d'avancer. En fait, le but, c'est d'aller vite parce que quand un enfant a 2 ans, s'il a besoin de 6 mois pour son rendez-vous, il y a bien le temps de dysfonctionner et que la dysfonction s'installe sur 6 mois. On n'est pas chez un adulte qui a 45 ans et qui vit comme ça depuis toujours. Et plus on est petit, plus c'est... Voilà, un enfant de 6 mois aussi, c'est encore plus... Il faut être rapide, finalement, chez les tout-petits.
Tout à fait.
Oui, et chez les tout-petits, ça impacte également la qualité de vie des parents, étant donné qu'un enfant qui ne ventile pas bien ne va pas bien dormir, les parents ne dormiront pas bien, et c'est un cercle vicieux familial, d'ailleurs. On le connaît tous.
Voilà. Et c'est vrai que par rapport à la consultation de sommeil, les gens, ils viennent parce que l'enfant ne s'endort pas, se réveille ou se réveille tôt. Oui. Mais ils viennent... Ils peuvent, de plus en plus, je trouve qu'ils viennent, mais ils ne vont jamais venir en disant « Mon enfant de 4 ans dort 12 heures par jour, plus encore une sieste l'après-midi, et si je le mets dans l'auto, il se réendort. » Ce n'est pas ce genre de choses qui vont l'inquiéter parce que l'enfant dort. Ça pose moins de problèmes.
Alors qu'en fait,
ça peut être très problématique. Ça peut vraiment cacher de gros soucis de qualité de sommeil, voire d'apnée, enfin de trosse.
C'est ça.
Ouais. Oui, c'est ça. Nous, on est amenés aussi à le demander. Est-ce qu'il dort trop ?
Oui, bien sûr.
Ça, ce n'est pas encore trop interpellant.
Qu'est-ce que ça a apporté d'avoir un médecin au sein de vos formations ? Vous êtes avec donc Sébastien Lizens, Brigitte Pirard et toi, qui êtes 3 logopèdes, et Laura qui est venue après. Mais donc, si je ne me trompe pas, Anne-Sophie, c'est la seule intrus, excuse-moi pour... mais donc, qui représente justement cette pluridisciplinarité dont on parle depuis le premier épisode. Qu'est-ce que ça a apporté concrètement dans vos formations ? Et quel est le retour des logopèdes que vous formez ?
Alors, c'est surtout cet aspect médical, évidemment, et puis toutes ces connaissances autour de la petite enfance et son expérience. Et puis, le fait qu'elles aient ensemble ces consultations communes aussi, qui permet de permettre aussi aux stagiaires ou aux personnes qui suivent la formation de se rendre compte que c'est possible de fonctionner vers une pluridisciplinarité, mais concrètement réelle. Parce que c'est souvent quelque chose qui paraît impossible à mettre en place, mais voilà, comme on disait dans le premier podcast, c'est quelque chose qui demande qu'on se retrousse les manches, qu'on aille rencontrer les autres pros de santé, mais après, des alliances se créent. Et là, on peut vraiment être efficace en travaillant ensemble, bras dessus, bras dessous, quoi.
Bien sûr, oui. Et puis aussi, entre logopèdes, on le néglige des fois aussi, mais pouvoir collaborer, on a tous nos champs d'action. Je sais pas, un enfant pourrait dysfonctionner au niveau oromyo-fonctionnel et bégayer ou... je n'aurais pas cet outil dans les mains et Laurence pourrait m'aider. Mmh. Et c'est vraiment pouvoir faire des liens dans notre travail et trouver des systèmes pour communiquer de façon pas trop énergivore. Bon, c'est compliqué. Et c'est vrai que notre consultation est très riche, très peu rentable. Mais très...
Et finalement, je pense même qu'en dehors de ça, on prend le pli, même parfois juste pour dire oh, « j'ai vu un patient », juste d'échanger, d'amener des infos.
C'est incroyable, moi j'ai appris vraiment des millions de choses à travailler avec Anne-Sophie.
Ouais, bien sûr.
L'inverse aussi, hein. Vraiment. Et je pense que de découvrir tout le monde du mieux fonctionnel, etc., ça a vraiment, je le dis et j'en suis convaincue, ça a révolutionné ma manière de travailler. J'ai plus du tout vu l'enfant de la même manière. Ça fait plusieurs années que je n'aborde plus du tout mon patient de la même façon, je travaille plus du tout de la même manière. Parce que je pense qu'on a une vision qui est différente quand on pense fonctionnel.
Tu disais que tu voyais les patients moins régulièrement que les logopèdes. Ça t'est arrivé parfois d'avoir un patient, de te dire « Ah ok, lui, il va devoir un moment porter un éducateur fonctionnel, c'est pas toi qui l'aura fait, mais voilà. » Et puis de le voir après ça et de te dire « Ah tiens, voilà, je vois que le travail collaboratif et que l'éducateur fonctionnel a fonctionné et je vois que cet enfant a évolué dans le bon sens grâce à ta détection, au bilan ORL, à la logopédie, à l'éducateur fonctionnel, au dentiste, à l'orthodontiste, etc.
Tout à fait. Ça arrive régulièrement que les parents reviennent en consultation pour refaire le point. Quand ils ont l'impression et que les intervenants autour de l'enfant ont l'impression que, voilà, que la prise en charge touche à sa fin, pour refaire le point, pour rééchanger. Puis je suis aussi régulièrement amenée à voir, alors, quand j'ai vu un enfant de la fratrie, à voir le plus grand ou le plus petit, parce que finalement, vous avez amener des choses qu'on ne nous avait jamais trop dit, et on aimerait bien faire le point avec vous, donc oui.
Ça doit être quand même très agréable, justement on parle du parcours de l'enfant, mais donc de pouvoir avoir ce retour aussi à un moment, de pouvoir voir que les choses ont fonctionné, et en plus les choses en collaboration, qui est vraiment votre philosophie, et la philosophie de l'éducation fonctionnelle, et donc ça doit être vraiment très agréable de dire, ah chouette, on a fait, c'est quelque chose qui vient concrétiser le bon boulot que vous avez mis en place.
Voilà, finalement, on se dit que toute l'énergie qu'on a dépensée, tous les contacts qu'on a dû prendre, le fait de référer, de retéléphoner à gauche, à droite, ça porte ses fruits. Et c'est, je pense, super. C'est plaisant, du coup, de faire ce boulot. Je ne m'imagine plus faire autre chose. Oui.
Pour clôturer notre discussion là, autour du parcours de l'enfant, on a beaucoup parlé de travail collaboratif, pluridisciplinarité. Le réseau que vous vous êtes créé, ça n'est que des coups de fil passés à gauche, à droite, ou il y a quand même, je ne sais pas moi, un endroit de référence où vous pouvez aller chercher des informations sur des médecins, sur des pédiatres, sur des qui sont ouverts à l'éducation fonctionnelle, qui sont ouverts sur les fonctions, ou c'est vraiment juste du réseautage de votre initiative?
Bon, je crois qu'on a un petit peu chacun notre manière de faire. C'est vrai qu'on a des personnes avec qui on travaille en commun, mais au fil du temps, c'est pas du tout stable. En fait, ça ne cesse de s'amplifier.
On a chacun un peu aussi nos réseaux, et en travaillant ensemble, on peut aussi partager.
Oui, c'est ça, partage nos réseaux.
On partage nos réseaux. On a aussi un groupe de travail en dehors de... donc où on se voit 4 fois par an, qui est constitué d'orthodontistes, d'ORL, d'occlusodontistes, de pédiatres en sommeil. Et alors on discute de cas où on invite un orateur externe pour pouvoir justement discuter, s'informer les uns les autres et rester au courant des dernières nouveautés.
Donc vos conseils là-dessus, c'est n'hésitez pas à échanger, en fait.
Bien sûr.
C'est vraiment la base.
Prendre des contacts, demander... Nous, on est plutôt du genre à demander à pouvoir aller s'incruster dans un bureau, observer, etc. Je pense qu'on le fait tous, on l'a tous fait, et c'est fantastique. Je pense que c'est tellement riche maintenant. On a soif d'apprendre et puis on va se noyer dans l'univers de quelqu'un d'autre et on en ressort grandi parce qu'on comprend plus de choses. Et c'est dans l'échange, dans l'actif face à un patient aussi que y a moyen de créer des liens. Et puis alors, ils perdurent au fil du temps.
Tout à fait.
Ça peut être aussi varié que d'aller voir une intervention chirurgicale, passer par un centre du sommeil, aller passer une journée de consultation chez un ortho ou un dentiste. Voilà, en se contactant, en allant s'observer les uns les autres.
Et pour ça, c'est aussi facile que ça. On décroche son téléphone, on dit, voilà, je suis logopède, je suis médecin généraliste, j'aimerais bien m'intéresser à ce que vous faites. C'est comme ça que vous l'avez fait et c'est comme ça que vous avez été reçu. Ça n'a pas...
Oui, et puis je pense que ce qu'Anne-Soa dit, c'est vraiment ce qui relate la réalité. On est plutôt dans une médecine à l'heure actuelle qui est proche, dans le partenariat avec le patient et... Moi, j'ai jamais eu un refus ou un médecin qui trouvait un collaborateur qui se disait que c'était nul et non avenu.
Elle va me déranger.
En général, c'est toujours un grand oui.
Ah ben, magnifique.
Oui, bah
donc, auditeurs, auditrices, n'hésitez pas, faites-le. Ça vous créera votre réseau et puis vous commencerez à travailler dans la pluridisciplinarité en comprenant un petit peu à gauche, à droite les autres disciplines et échanger surtout. C'est ce qu'on comprend ici et tout ça évidemment dans l'optique de l'enfant et du bon parcours de l'enfant pour réadapter ses fonctions naturelles. Merci beaucoup. Merci pour votre expertise et pour les informations que vous nous avez révélées. Merci d'avoir écouté donc ce podcast créé en collaboration avec Mayoro, dont vous êtes toutes les trois formatrices, et MOS, donc distributeur de produits orthodontiques et notamment les éducateurs fonctionnels. On se retrouve bientôt avec l'épisode numéro 3 qui sera consacré aux questions qui nous reviennent souvent, aussi bien du côté de Mayoro que du côté de MOS. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Parlons fonction.